Et pour cette semaine, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Belle journée à toutes et à tous.
Le temps des copains, l'émission des années 60. Salut les copains. Sur RVE. RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, une femme et un enfant sont morts hier soir à Lyon dans l'incendie d'un immeuble de 2 étages. Le feu aurait été causé par une explosion survenue dans une boulangerie. 4 personnes ont également été blessées dans cet incendie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de cet événement. Les Gilets jaunes continuent de mobiliser pour l'acte 13 qui s'est déroulé hier. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 51 000 personnes ont manifesté en France contre 58 600 la semaine dernière. Un comptage effectué par les Gilets jaunes fait part de 111 000 manifestants. Cette mobilisation en recul a une nouvelle fois été marquée par des incidents, notamment à Paris où un manifestant a eu une main arrachée. L'homme aurait voulu repousser de la main une grenade de désencerclement. 39 personnes ont été interpellées au cours de ces manifestations. En Syrie, une alliance arabo-kurde soutenue par Washington a annoncé avoir lancé son offensive finale contre le groupe État islamique. Après 5 mois de combat, les FDS, les forces démocratiques, syriennes ont éliminé 500 à 600 terroristes qui seraient retranchés dans l'est de la Syrie. Le porte-parole des FDS a précisé que la bataille sera terminée dans les jours à venir. En Algérie, le FLN au pouvoir a désigné Abdelaziz Bouteflika comme candidat à l'élection présidentielle. À 81 ans, le président sortant doit officialiser sa candidature avant le 3 mars s'il veut tenter de décrocher son 5e mandat consécutif. Victime d'un AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'apparaît plus que rarement en public. Enfin, du sport, le PSG en plein doute à 3 jours de sa rencontre contre Manchester United en Ligue des Champions. Edinson Cavani est sorti sur blessure hier après avoir frappé le pénalty de la victoire contre Bordeaux. Sans Neymar, blessé, sans Verratti, remis d'une blessure mais manquant d'entraînement, et sans Cavani, blessé à la jambe droite, la compétition risque d'être plus compliquée que prévu pour les Parisiens. Résultat mardi.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, il fait pas beau, hein. Il y a eu la tempête cette nuit, il y a de la pluie, donc vous allez naturellement nous rester fidèles tout au long de cette matinée. On va perpétuer une tradition, hein. On va continuer à parler plus que jamais de tous les sports dans cette émission du dimanche matin, et on commence avec nos premiers invités, ils sont venus parler d'aïkido. Et oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas reçu la section aïkido de Rambouillet. Je salue donc le présent, Bruno Monti. Bonjour. Bruno, ça va bien ?
Très bien.
Et vous êtes venu parler aïkido parce que la semaine prochaine, il y a une grande démonstration d'un grand maître. On aura l'occasion donc de l'évoquer.
Oui, tout à fait. Pascal Guillemin, 6e dan et élève de Christian Tissier, qui est connu au niveau international pour ses compétences et aussi pour ses qualités humaines qu'on pourra évoquer ensemble.
Voilà, et puis on aura aussi avec vous Anthony Lecomte, secrétaire du club. Anthony, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc vous accompagnez naturellement Bruno.
Oui, tout à fait. Je suis secrétaire du club de Rambouillet. Je m'occupe également de la section enfants et adolescents le mardi soir.
Très bien, intéressant. Et puis, il s'intéresse comme nous à tous les sports. Hein. C'est notre ami Stéphane Caen avec qui on va beaucoup parler sport mécanique. Hein. Salut Stéphane, ça va ?
Salut, oui, bonjour. Ouais. Ça va très bien, bonjour à tous.
Belle entame. Puis alors, le hasard fait que Bruno Monti, il connaît bien les sports mécaniques aussi.
Tout à fait, on en a un petit peu parlé. Allez, c'est sympa, on va échanger là-dessus.
Alors avec Stéphane, on va naturellement parler d'une abondante actu de sport mécanique. On va parler du Monte Carlo historique et aussi du Monte Carlo. On fera une petite projection aussi sur la saison de Formule 1 et puis on parlera de ce qui s'est passé aussi ce week-end avec donc notamment le trophée Andros aussi. On l'avait oublié.
Tout à fait.
Faut pas l'oublier.
Au stade de France. Ouais.
Voilà. Très bien. Allez, on commence avec l'aïkido. Je voulais simplement un tout petit mot de foot, avoir une petite pensée pour Jacques Ferrand. C'était un grand maître à nous tous. Hein, donc directeur de la rédaction de France Football et rédacteur en chef à l'équipe. Il nous a quittés à 98 ans. Donc on voulait avoir ce matin une énorme pensée pour celui qui a été le maître de tous et qui est aussi à l'origine de la création des Coupes d'Europe et du très célèbre Ballon d'Or France Football. Allez, donc on commence avec l'aïkido. Alors Pascal Guillemin qui vient, comment on arrive donc à avoir une telle personne? Parce que c'est vraiment quelqu'un de très connu hein, dans le milieu.
Oui, oui, tout à fait. C'est un élève de Christian Tissier, oui. Comme je le disais précédemment. C'est quelqu'un techniquement très sophistiqué au niveau de ses capacités techniques, au niveau des armes et au niveau de la pratique elle-même de l'aïkido. Et à côté de ça, il a un parcours personnel sur un travail dans les prisons où il fait de l'aide à la réinsertion. Il fait aussi dans le milieu du cinéma, puisqu'il a organisé les chorégraphies des combats du dernier samouraï avec Tom Cruise, entre autres.
Des séminaires en entreprise aussi.
Fait des séminaires en entreprise aussi. Mmh. Ce qui démontre bien que l'aïkido, c'est pas simplement un art martial qu'on peut pratiquer pour soi, c'est aussi le pratiquer au quotidien. On peut transférer beaucoup de principes de l'aïkido dans la vie du quotidien et dans sa façon d'être et de raisonner et d'approcher les gens.
Alors un tel monsieur, on arrive comment à le faire venir comment? Parce que je suppose qu'il doit être énormément sollicité.
Ah ben, le premier contact a été fait l'année dernière, en 2018, au mois de juillet, lors d'un stage. Voilà, tout simplement, à Maintenon. Maintenon accueillait Pascal, nous sommes en relation beaucoup avec la Ligue du Centre. Et donc Pascal était là, j'étais présent au stage, et tout de suite après le stage, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes à Rambouillet, est-ce que tu as une date? Il m'a dit, il faut que je regarde. Mmh. Et coup de chance, mois de février, c'est pas le mois où il est le plus chargé, et nous, c'est le mois où on fait notre stage annuel. Mmh. Donc tous les ans, nous essayons de faire venir un expert. On a eu Arnaud Valls, on a eu Hélène Doué, Fabrice Croiset, qui sont tous des experts et membres du Collège Technique. Mais avec Pascal, il y a eu un feeling totalement différent par rapport à ce qu'on a évoqué en début de l'interview, à savoir tout ce qu'il fait à côté, quoi. Mmh. Et il y a une vraie valeur de l'homme qui est intéressante. Et dans le club, nous pratiquons l'aïkido avec beaucoup d'échanges au niveau des personnes qui pratiquent avec nous, et l'être humain a toute sa valeur. Et on fait pas que de l'aïkido sur le tatami, on fait de l'aïkido à l'extérieur, en organisant soit de l'escalade pour certains, on a fait de la calligraphie japonaise, on a fait de la moto, puisqu'on a plusieurs motards, donc on fait des tours de moto ensemble. Enfin, voilà, il y a des micro-groupes qui se créent dans le club et qui échangent au travers de l'aïkido. Alors évidemment, quand on se retrouve dans d'autres moments extérieurs, on parle bien sûr d'aïkido, on parle de plein de choses, mais à côté de cela, on fait une autre passion. La photo, pour certains, voilà.
Vous, la moto, donc voilà.
Et moi, la moto, en l'occurrence, voilà.
C'est très, une belle passion.
Oui, c'est une belle passion. Parce que le principe de l'aïkido, c'est avant tout un sport de défense. Hein. Il faut le dire, ça, voilà.
Alors,
on anticipe.
Oui, oui, c'est un petit peu comme ça qu'il est qualifié général. L'aïkido, c'est neutraliser une personne avec le sourire, on va dire.
Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. On anticipe.
On n'a pas besoin de force. On essaye de pas mettre de force. On se sert de principes comme le déséquilibre, sur les contrôles de l'axe. On travaille sur les articulations, l'anticipation. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est qualifié comme art de défense. Mais il faut savoir que c'est relativement destructeur. C'est issu du Daitoryu, qui est un art ancestral japonais. Quand on connaît les techniques du Daitoryu, qui sont issues de l'aïkido, elles sont destructrices. Et là, on casse. Mais l'aïkido, tel qu'il a été modernisé par Maître Ushiba, n'avait pas la même philosophie. Il avait justement une volonté, Maître Ushiba, d'apporter la paix plutôt que la guerre. Lui, il a connu la guerre. Il a été en Mongolie, il s'est battu dans le conflit chinois-japonais au début du siècle. Donc il connaît la guerre, il a tué des gens, mais c'est pas ce qu'il voulait, quoi.
C'est pour ça que vous n'avez pas de compétition dans votre sport.
Exactement. Ouais. Mais par contre, on a un entraînement continuel qui est là pour s'améliorer dans cette technique, progresser au fil de l'eau, échanger, travailler avec une multitude de partenaires, que ce soit des grands, des petits, des gros, des maigres, des raides, des pas raides. Et c'est là qu'on voit la progression qu'on a dans sa pratique, à savoir que les techniques vont passer indifféremment sur toutes les personnes.
Bon, il y a quand même des degrés, comme dans tous les autres arts martiaux.
Oui, bien sûr. Hein, il y a cinq
ceintures, voilà, des degrés.
Exactement. Des... Ouais. Il y a 5 Q à passer, déjà, pour atteindre le niveau de ceinture noire. Et ensuite, il y a des Dan qui sont passés. Actuellement, en France, il y a 4 niveaux de Dan avec examen. Et après, les Dan, à partir du 5e Dan, sont donnés sur dossier par les professeurs de ces mêmes enseignants.
Voilà. Alors comment ça va se passer dimanche prochain? Ça sera pendant notre émission, hein, voilà. Trimel Sport. Donc c'est à 9h je crois.
Hein. 9h30 commence le stage. Voilà, au stage de
Dans votre stade du Vieux Moulin.
Oui. Pardon. Mm-hmm. À partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Donc on accueillera les gens à partir de 9h, peut-être pour les matinaux un petit peu avant.
Donc tout le monde peut venir assister à cette
séance. Tout le monde peut venir regarder et c'est avec grand plaisir qu'on accueillera les gens. Ça donnera peut-être des envies futures pour pratiquer. Donc ça commence en général par un échauffement et ensuite on a une pratique des armes. On a toujours une pratique des armes. Alors je ne sais pas vous dire sur quoi travaille Pascal en ce moment. Donc on va faire la découverte. Est-ce que ça sera du jeu le bâton ou le sabre, le ken? Ou tantôt, le couteau, on ne sait pas. Et ensuite, on aura une dérive sur la technique d'aïkido qui est en rapport avec les armes qu'on aura fait la première heure.
Mmh. Voilà. Ça va durer jusqu'à quelle heure? Midi et demi.
Et
donc, à peu près plus de 3 heures, quoi.
Voilà, on a une petite coupure après le cours d'armes, en général. Mmh. Et après, nous, on a toujours, c'est une tradition à Rambouillet, c'est d'accueillir les gens parce que... On veut que les gens profitent de la ville de Rambouillet aussi et la faire connaître. Donc, on a toujours un petit buffet.
Mmh. Oui, c'est une tradition, ça s'amène toujours comme ça.
Voilà,
en France,
exactement.
C'est bien connu.
Voilà.
Ouais. Bon, qu'est-ce que vous attendez d'une telle matinée pour vos pratiquants? D'aller peut-être encore plus loin dans les valeurs à travers un entraînement?
Alors, notre difficulté, nous, à Rambouillet, c'est qu'on est complètement excentré par rapport au 78 et par rapport à tous les clubs parisiens et banlieusards. Donc, en fait, nos relations sont beaucoup plus avec la Ligue du Centre. Je pense à l'UC, Luisan, Châteaudun, Maintenon, avec qui on travaille en interclub. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc, faire connaître le club de Rambouillet, qui est un club important, puisque nous avons presque 70 adhérents, tout adhérents confondus, enfants et adultes.
Ouais, donc tout mélangé, il y a une tranche d'âge qui est très, très large. Ouais.
Et on a 25% de femmes.
C'est bien, c'est une question que j'allais poser, donc c'est très bien. Donc c'est vrai.
La seule, donc la section que nous souhaitons développer maintenant dans le futur pour grossir, parce que au niveau des adultes, on est bien, alors on n'est pas contre plus d'adhérents, bien sûr, hein. On n'est jamais contre. Mais par contre, on souhaiterait redonner du dynamisme à la section enfants et ça va être notre chantier. Et je vais laisser la main sur le sujet
Anthony. Il y a des projets pour redynamiser ces enfants. D'abord, est-ce que ces jeunes y restent? Parce qu'on sait qu'il y a des âges où on essaye un peu tous les sports.
Quand ils restent, oui, c'est super. On a eu deux exemples de jeunes qui ont obtenu leur Dan. On a eu un jeune Maxime qui a eu son deuxième Dan et là on vient d'avoir le plus jeune gradé du club avec Guillaume qui vient d'avoir week-end dernier son premier Dan.
Donc eux aussi pourront être là dimanche pour suivre la séance d'entraînement.
Tout à fait, bien sûr. Les adolescents sont les bienvenus.
Oui, donc du coup, c'est vrai qu'au niveau des sections enfants et adolescents, la partie la plus compliquée, c'est le passage au lycée. Généralement, c'est là qu'on perd, qu'on perd des adhérents. Donc nous, on a décidé avec Bruno d'essayer de voir comment on pouvait dynamiser cette section. Donc l'idée, ce serait d'aller du coup au contact des élèves pour soit présenter l'aïkido sous forme d'exposé, faire des petites démonstrations. Pas d'essai parce que d'un point de vue assurance on pourrait pas le gérer, mais voilà, essayer de faire connaître, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un peu l'avantage de l'aïkido de ne pas avoir de compétition dans la philosophie de notre pratique.
Mais par contre, ça peut être frustrant aussi.
C'est un peu le désavantage du fait qu'on soit un peu moins médiatisé.
Voilà,
donc du coup, c'est ce qui nous porte défaut pour faire connaître la discipline. Donc c'est pour ça qu'on a la chance aussi d'avoir des journées comme aujourd'hui, ou même grâce à des stages, vous nous donnez la parole. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus difficile. En plus, on arrive près des Jeux Olympiques où il va y avoir tout le judo, le taekwondo, des sports très 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 très, très compétitifs qui vont être mis en avant. Donc c'est vrai que c'est des périodes où c'est un peu plus compliqué de recruter des jeunes. En plus, on a une petite particularité, c'est que nous on accepte les jeunes qu'à partir de 7 ans. Parce qu'on considère qu'en dessous, C'est difficile, ouais, ils sont pas prêts. C'est vrai qu'on demande pas qu'une rigueur physique dans l'aïkido. Il y a une rigueur comportementale entre guillemets et une certaine attention qui est demandée aux jeunes, qui est difficile avant 7 ans.
Mmh. Donc, travailler avec les écoles, ça peut être une solution. Vous l'avez dit. Il y a certains sports qu'ils font. Vous essayez.
Oui, c'est quelque chose. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore mis vraiment en place.
Mais voilà, on aimerait faire à travers l'aïkido, par exemple.
Voilà. Et l'idée, ce serait même après de pouvoir aller dans les temps périscolaires. C'est une idée qui pourrait vraiment se développer en fonction du temps déjà des professeurs, des diplômes qu'on passe, parce qu'on est assez freiné au niveau de certains diplômes qui nous permettent d'intervenir dans les écoles. Donc, ça peut être une idée, les temps périscolaires, de vraiment pouvoir venir au contact des enfants et leur faire découvrir cette discipline qui est assez peu connue en fait.
Bon, ceux qui sont intéressés en écoutant cette émission ce matin, ils peuvent venir, bon, vous voir la semaine prochaine, hein, tout en
étant. Déjà, avec grand plaisir.
Voilà. Et puis ensuite, vous rejoindre ou faudra attendre maintenant le mois de septembre?
Alors, toujours, nous, on ouvre la porte tout au long de l'année. Hein. Mmh. Donc, à partir du moment où il y a de la bonne volonté, il faut se dire qu'arriver en milieu d'année ou dans le dernier trimestre, comme on a eu l'année dernière avec un élève, mais il avait une telle volonté de commencer qu'il s'est très bien intégré et il a accepté d'arriver dans un cursus où on commence à avoir des techniques un peu plus sophistiquées dans la dernière partie de l'année. Et surtout, on prépare toujours les grades sur le dernier trimestre de façon très assidue. Donc les cours montent en intensité, donc physiquement, faut pouvoir tenir. Pour les adolescents, c'est un peu différent. Même pour les tout-petits, il y a toujours matière à intégrer un jeune qui a la volonté de le faire.
Vos créneaux, c'est quand? C'est toute la semaine? Alors, parce que je sais que vous devez les partager avec d'autres sections.
Oui, tout à fait, mais ça se passe bien. On a les enfants le mardi, de 17h30 à 18h30 pour les tout-petits, et ensuite les adolescents à l'heure d'après, 18h30, 19h30. Et ensuite, nous avons le cours adulte, qui commence à 19h45 jusqu'à 21h45. Et nous avons 19h45, 21h45 le jeudi, et nous avons mis en place un cours le samedi, de 9h à midi, la première heure étant dédiée au travail des armes et ensuite à la pratique de l'aïkido. Et donc là, le samedi, alors en semaine, c'est André Meunier qui assure les cours adultes, Anthony qui fait les cours enfants. Et ensuite, le samedi, on a une rotation puisqu'on a investi, nous, depuis pas mal de temps sur la formation. Et nous avons plusieurs professeurs qui adhèrent au projet. Et donc, il y a Anthony qui peut faire le cours le samedi. Et c'est généralement Cécile Boutier et Luc Croquet et moi-même qui faisons les cours le samedi. On fait une rotation en fonction de nos plannings respectifs.
Quel est le prix d'une licence et d'une cotisation? Et l'équipement, il est à la base et à la charge du pratiquant?
Oui, alors l'équipement est à la charge du pratiquant. Alors quand on parle d'équipement, on parle de kimono, basiquement. Ouais. Par contre, nous, on fournit les armes, à savoir le tanto, le jo, le ken, quand on demande la pratique au cours. Donc après, le pratiquant, s'il va faire des stages, il a besoin de ses propres armes. Et pour répondre au coût, c'est 230 € l'année complète avec une licence.
Ouais, donc ça comprend l'assurance, tout ça, si on
tout,
se blesse, quoi.
Tout. Donc c'est vraiment un art martial tout à fait accessible à tout le monde. En plus, nous, on est relativement souple sur les modalités de paiement, parce qu'on sait que les parents qui ont plusieurs enfants avec plusieurs activités, c'est pas toujours facile en début de saison. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème.
Ben écoutez, très bien, merci. Hein. Donc on va quand même dire que on va rappeler donc dimanche prochain 9h30 12h30 au stade de Vimoulin. Une dernière question, à quand une nouvelle nuit des arts martiaux? Parce que c'est peut-être une façon aussi de valoriser votre activité.
Alors la nuit des arts martiaux,
ça s'est fait très longtemps.
Oui,
passé,
tout à
après
fait.
Ça s'était fait sur le Téléthon.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment que on repense le sujet, mais avec d'autres sections des arts martiaux.
Oui.
Mais nous, on est d'accord sur le principe. Il n'y a aucun problème.
Ça, c'était sympa. Puis bon, ça permet de mettre vos.
Et il y a eu de très belles démonstrations de fait.
Oui. Stéphane, l'aïkido. Oui.
C'est pas au programme tout de suite.
Mais ça permet de découvrir des sports.
Oui,
ça, c'est
par
bien,
contre,
c'est
non, mais il y a plein de valeurs là qu'on partage. Oui. On en a discuté, c'est vrai, ces valeurs humaines. le côté défense et puis le sourire avant tout.
Oui.
Et bon, c'est important. Et j'encourage, moi, je pense, tous les enfants à aller dimanche prochain, même si on va rentrer en concurrence avec notre 124e rendez-vous de la Reine, mais ça, on va en discuter.
Tiens, vous faites un petit détour.
Bah, c'est peut-être la possibilité, hein, on va s'arrêter. Voilà. Par contre, on est nombreux, hein, et puis on va peut-être
faire un
peu
grand parking. Un grand parking.
Ouais. C'est vrai que, bon, les arts martiaux, c'est une seule et même valeur, hein. C'est important tout. Ces valeurs, elles se regroupent pratiquement à chaque pratique d'un art martial.
Oui, oui, tout à fait.
On a des valeurs communes.
Oui, oui, il y a des valeurs communes dans le judo.
Le taekwondo, le judo, le jiu-jitsu, le karaté, tout. Hein.
Oui, oui, ouais. Tout à fait.
Et on salue toujours le grand maître.
Exactement.
Et le professeur.
Ouais. Alors nous, on salue le dojo avant d'entrer.
Et le dojo aussi, ouais.
Voilà, on salue le dojo avant d'entrer, et quand on ressort, on resalue. Et après, il y a tout un cérémonial à l'entrée du cours, et à la fin du cours, vis-à-vis du professeur. Et du dernier partenaire avec lequel on a travaillé.
Très bien, mais écoutez, merci.
Hein. Merci
N'hésitez
beaucoup.
Pas,
merci
à vous. Dès que vous avez d'autres manifestations de ce genre, donc à nous,
on n'hésitera
à nous
pas.
Contacter. Voilà,
un grand plaisir.
La pub,
merci
la musique,
beaucoup.
Et ensuite, on passe à l'abondante Actu Sport Mécanique.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. À Rambouillet, 14 rue Chasles, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Chasles, à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb loue Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
Blue. And you need her and she needs you. price. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, that's all day's love.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Effectivement, alors avec donc Stéphane Caen. Stéphane, début d'année très chargé.
Hein, oui, très.
Vous rentrez du rallye de Monte Carlo historique, notamment.
Exactement. Il a commencé, en fait, vendredi de Reims pour ceux qui partaient de cette ville de départ. En fait, il y a eu plusieurs villes de départ, Glasgow, Athènes, Monaco, Barcelone et Badenbourg. Et en fait, tout le monde s'est retrouvé à Buis-les-Baronnies en Drôme provençal. Et après, le rallye est parti et il s'est fini dans la nuit de mardi à mercredi, après une très très belle édition, hyper enneigé, des conditions de route très difficiles, typique du Monte Carlo avec des choix de pneumatiques, même en historique, pas toujours évident, bien que là cette année je pense qu'il fallait mettre les clous tout le temps, au moins au début, des zones de régularité qui ont été annulées à cause de la bure, le vent en Ardèche, on avait des congères de 2 mètres de haut, ne serait-ce que pour suivre le rallye comme photographe, ça a été assez difficile.
Oui, parce que on va le dire, cette année vous n'étiez pas comme concurrent, vous étiez comme photographe.
Hein. Exactement, voilà. J'envisage bien...
C'est plus confortable, c'est mieux.
C'est beaucoup plus difficile comme photographe, ouais. Je n'ai qu'une envie, Monte Carlo comme cette année, il aurait fallu le faire dans la voiture, tellement les conditions de route étaient merveilleuses, parce que c'était de la glisse et un plaisir qu'on retrouvera peut-être pas, parce que c'est vrai que les conditions étaient particulièrement bonnes cette année, et c'est vrai que c'est beaucoup moins fatigant finalement. C'est stressant dans la voiture, mais par contre, le suivre comme photographe, il y a plus de 300 concurrents, donc quand on les prend tous en photo, il faut à peu près 5 heures pour un passage. Quand on fait 2 EDR dans la journée, ça fait 10 heures dehors. Faut aller d'un point à un autre.
Ouais, faut prendre la bonne photo. Voilà.
Et puis, la petite anecdote rigolote, c'est que je prépare toujours les rallyes un peu sur un map pour pas le prononcer. Avant, et de tous les points que j'avais donc mis sur une carte, sur un GPS pour y aller, il y a que le dernier où j'ai vraiment pu aller me faire plaisir par rapport à ce que j'avais prévu, tellement il a fallu m'adapter aux conditions climatiques cette année en permanence, et c'est vrai que c'était assez dantesque, mais un grand plaisir, et puis c'est voilà, une très belle épreuve.
Alors ça tombe bien parce que avec votre intermédiaire, on a le vainqueur du Monte Carlo historique 2019, c'est Michel Badesa. Michel, bonjour.
Bonjour.
Ça sent bon l'accent.
Salut Michel.
Salut Stéphane. Alors, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, en plus ça arrangera pas.
D'accord. Ça s'est passé comment? Très brièvement, vous pouvez nous raconter votre édition 2019?
C'est assez paradoxal parce que c'était une épreuve. Avec des conditions exceptionnelles cette année. Pour nous, ça s'est passé comme dans un rêve. On a pris la tête à la première ZR à notre grande surprise. Bon, au prix d'une attaque inavouable, je vous expliquerai, c'était un peu... ça passe ou ça casse, quoi. On a tout tenté d'entrer, mais on était loin d'imaginer qu'on avait fait l'écart d'entrée. Et puis, on a continué dans la deuxième, même si on n'a pas fait le meilleur temps, mais on a lâché très très peu. En fait, chaque fois qu'on a fait les meilleurs temps, on a fait un gros écart. Mm-hmm. Et quand on ne faisait pas le meilleur temps, on était toujours placé, on lâchait que des miettes, si je peux dire. Mm-hmm. En fait, notre avance a constamment évolué. Chaque jour, elle a augmenté sur les suivants directs.
D'accord.
Et on a réalisé 4 meilleurs temps en 4 jours. Et jusqu'à la fin, on n'a rien lâché, on n'a fait aucune erreur de navigation de par mon copilote, aucune erreur de pilotage, alors qu'il y avait beaucoup de pièges. J'ai constamment roulé à peu près, j'ai là 80-90%, ce qui fait qu'on ne connaît pas le parcours par cœur, même si on va faire des recos, c'est des spéciales qui sont, enfin des EDR plutôt, qui sont tellement longues, qui font 50 km. Je pense par exemple à la première, on avait 3 cols d'entrée à faire et 49 km. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de repérer les points les plus délicats, si je peux dire. Et puis le reste, on est un peu à vue. Et en conduisant à 80%, ça permet de, lorsqu'il y a une plaque de verglas ou de la neige déposée par les spectateurs, parce que ça arrive aussi, ça fait partie du jeu, eh ben de se faire une petite frayeur. Mais comme on a gardé 10-20% de marge, eh ben on a réussi à passer à travers les embûches, les problèmes, et à maintenir notre écart jusqu'à l'arrivée.
Oui, donc ça a été une course parfaite, quoi, cette année.
Ah, c'était un rêve pour nous, vraiment un rêve. Et on a vraiment du mal à réaliser. Je commence à réaliser justement par les retours que j'ai. Là, j'étais en contact avec un copain allemand, Stéphane le connaît bien, c'est Michael Bruns, là, qui m'a envoyé des vidéos de la soirée de gala. Ils ont partagé cette joie avec moi parce qu'ils ont bien compris que c'était David contre Goliath, le petit amateur, avec une voiture que j'ai achetée il y a quelques années, 750 euros, que j'ai fait évoluer, puis que j'ai adapté, et puis voilà, c'était une victoire qui a, je pense, fait plaisir à beaucoup de monde.
Oui. Mais puis il faut noter une chose quand même, Michel, je crois que c'est dans l'histoire du Monte Carlo historique, c'est la première fois que quelqu'un mène du début à la fin.
Oui,
ce qui s'était jamais passé auparavant. Et moi qui t'ai vu passer de nombreuses fois, et je suis en train de classer tes photos, et c'est toujours un pur plaisir de les regarder, tu as maîtrisé d'une façon incroyable toutes les difficultés, la glisse juste ce qu'il fallait, ta R8, c'est la propulsion, mais tu vois, t'étais sur le film, on sentait que tu maîtrisais ton élément comme peu de personnes ont fait, je dois te le dire, en regardant toutes les photos, vous êtes pas très nerveux à avoir réussi à faire ce parcours, et moi je te félicite, et bon, c'était un pur plaisir de participer à ce Monte Carlo.
Oui, en plus Steph, on se connaît depuis longtemps, tu me suis quand même depuis, même avant que je commence, même avant que je le fasse la première fois, on s'était rencontrés déjà quand j'allais pour faire un peu le curieux, voir m'imprégner un peu de l'ambiance, des difficultés dès qu'on pouvait rencontrer, et c'est vrai que c'est là que j'ai réalisé, c'est la première fois que quelqu'un gagne en menant du début à la fin. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez énorme, surtout dans les conditions où on avait cette année. C'est la première Renault qui gagne.
Oui,
en plus.
La première victoire d'une Renault au Monte Carlo, si on enlève les Alpines, évidemment. Hein, c'est qui sont des voitures un petit peu à part, je dirais.
Exactement.
Et puis, c'est la première victoire d'un Français sur une voiture française aussi.
Et la Marseillaise.
Voilà.
Ah oui.
Bon, ouais. Ça fait quoi, la Marseillaise?
Ça restera gravé quand même.
Ouais, ça fait quoi, la Marseillaise à Monaco?
Ah ben, je vous avouerai que j'étais très, très, très ému quand notre ami Jean m'a téléphoné, m'a dit que j'avais le meilleur temps dans la. Que j'avais pris la tête dans la première. Et après, mais je comprenais pas parce que c'était tellement énorme. Alors, ce qui m'a le plus ému après, c'est en arrivant à la soirée de gala, voir ma petite voiture sur l'estrade, toute bichonnée avec les hôtesses.
Ouais. Là, faut peut-être un peu expliquer, en fait, le rallye se termine, que ce soit le rallye WRC ou le rallye Monte Carlo historique, par une soirée de gala,
tout le monde est mélangé.
Tout le monde en tenue de soirée, c'est cocktail, c'est au Sporting, c'est une grande salle de spectacle. Et là, la voiture qui a gagné est sur la scène. Avec des hôtesses qui sont autour, et en fait on fête vraiment le vainqueur, il y a un podium, et donc c'est là où la Marseillaise a retenti, et je pense que là, Michel, t'as dû quand même avoir quelques frissons.
Ah, c'est vrai que quand j'ai vu ma petite voiture là-haut, j'ai de suite pensé aux nombreuses heures où je travaille seul le soir chez mon copain qui a un garage, et la voir là, c'est j'ai eu une petite larme, c'est sûr que Je rêvais de le faire, mais je l'ai fait, quoi.
Et c'est l'autre avec côté la du manière. Sport auto, c'est, on n'imagine pas toutes les heures de préparation, toutes les reconnaissances. Il faut aussi une super ambiance dans la voiture avec ton copilote, et là, cette année...
sur le copilote, justement. Un petit mot sur le copilote. C'est une vieille complicité entre vous?
Pas si vieille que ça. Alors, c'est une histoire assez marrante. Ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote assez rigolote. On s'est rencontrés il y a 3 ans uniquement parce que j'avais un copilote depuis 1992 qui m'avait fait préparer le moteur, tout ça. Et malheureusement, avec les années, il est devenu très très malade en tant que navigateur dans l'auto. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas... Le dernier Monte Carlo qu'il a fait avec moi, il a vomi, je crois, 28 fois pendant le rallye. Alors, donc,
et on y était, je me souviens.
Je te rappelle. Donc je lui ai dit, Stéphane, je lui ai dit, il s'appelait Stéphane aussi. J'ai dit, comment on fait? Il me dit, il faut que je trouve une solution. Je dis, malheureusement, je crois que je la connais. On ne peut pas continuer. Oh. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai passé l'arrivée de la dernière ZR à Lucéram, On s'est arrêté sur un parking, dans le noir, on s'est mis, on a regardé les résultats. De suite, il m'a appelé. C'était minuit 58. Je regardais sur mon téléphone, il m'a dit « Félicitations, t'es un acharné ». Et j'étais content parce que c'était un peu sa victoire. Je lui ai dit « Tu sais que ton moteur, il fait jaser, tout ». Pour bien lui faire comprendre qu'il y avait une part active dans cette performance, parce que c'est un ensemble de choses. Mmh. Il m'a fait un petit moteur qui marche bien, sans être très puissant, mais qui est efficace dans les conditions qu'il fallait, et qui a été d'une fiabilité, il l'a fait depuis 4 ans. Et donc, il y a 3 ans, je mets une annonce sur un site, recherche un copilote et tout, puis je suis contacté par Morgan. Il me dit, on se donne un rendez-vous, il y avait un rassemblement de voitures anciennes chez moi dans le Var, il est venu, et il me dit, voilà, je voudrais le faire avant d'être trop vieux. Je dis, écoute, on se voit là-bas. Il arrive, il a 70 ans, on discute et tout, et j'ai senti une grande passion, et puis il m'a dit, voilà, mon papa l'a fait en 1953, 1955, dans les années 60, j'aimerais le faire avant d'être trop vieux, j'étais copilote d'un Danois qui a été champion du Danemark et tout. Je dis, allez, bingo, on part. Et on a progressé ensemble, on a évolué ensemble, on a fait des recos qu'on faisait jamais avant parce que Stéphane n'avait pas l'opportunité de par son travail de se libérer. Et on a sympathisé avec Yves Joigny à la remise en trègue, qui est un haut lieu de pèlerinage pour les fanatiques du rallye. Et cette année, Morgan arrive chez moi parce qu'on est parti par la route. Il faut savoir qu'on n'avait même pas de remorque ni rien, nous on était à 200 km. On est parti par la route, et d'ailleurs, en revenant, je dis, on est tombé en panne, on a crevé.
C'est un anecdote de retour.
Ouais, bah, on était tombé en panne d'essence, en rentrant, ouais. Nous aussi.
Ça, hein. C'est incroyable, ça.
Et on se relâche, ouais. C'est fini.
Jeudi dernier, dans la veille du départ de Monaco, Morgan arrive chez moi, tout, on prend par les affaires, il me dit, tiens, j'ai ça pour Yves. Il me sort une plaque du rallye de son père, de l'époque. Et quand j'ai vu la plaque, je lui dis, Morgan, tu la donnes pas, cette plaque. Il me dit, pourquoi? C'est la plaque de 1963 de mon année. Et ton père l'a fait en 63 avec le numéro de course qu'on a cette année, le 261.
Oh là là, c'est une étude.
Incroyable, hein?
Incroyable.
J'ai dit, ça, c'est un signe, mon gars. Ouais. J'ai la plaque de mon année de naissance avec le numéro 261 et la plaque de cette année où on a gagné avec le numéro 261.
Ah ouais, c'est une belle histoire, ça. Mmh. Ça, c'est une belle histoire.
Ça, c'est des trucs, ouais, voilà.
Et c'est un peu l'histoire.
On est arrivé. Et en plus, on est arrivé. Quand on a fait la ZR de l'entrègue Le Moulinon, Yves, on a vraiment sympathisé, on est devenus très très amis. Il nous attendait, tout, avec la tarte aux pommes, comme le veut la tradition et tout. Excusez-moi. Mm-hmm. Voilà. Et à peine j'arrive, j'ai Jean qui m'appelle, il me dit, Michel, t'as encore le meilleur temps. Alors déjà, on sort de l'auto, on exulte. On tombe dans les bras de Yves, on lui dit, on est en tête, on a fait le meilleur résultat encore dans celle-là. Il était fou. Et Morgan lui dit, j'avais une plaque, mais je me la suis fait voler. Il me dit, par qui? Puis il me montre à moi. Il me dit, tu m'as fait ça? J'ai dit, c'est mon année de naissance, c'est le même numéro de course que cette année. Ah, il me dit, bon allez, t'es en tête. Allez, on va boire un café. Et on était contents, on était bras dessus, bras dessous. Et c'était un super moment. Voilà, c'est des moments qui restent gravés, quoi.
Absolument. Bah, Michel, merci. La suite de la saison, c'est quoi maintenant?
Déjà rattraper tout le retard, ce que j'ai à faire à la maison pour aider ma femme, parce qu'elle m'a laissé tranquille pendant 3-4 mois.
Je m'en doute.
Et puis, je ne sais pas du tout. J'ai une exposition à Fayence le 17 février qui met à l'honneur Alpine, et puis ils m'ont demandé si je pouvais venir, donc je vais y aller. Et puis peut-être, je ne sais pas en fait. Ils veulent changer les réglementations. L'année prochaine aura lieu Monte Carlo, donc on attend de voir un peu ce qui se décide, comment ça sera appliqué. Peut-être le remettre, ou alors j'ai des projets, peut-être du style le Tour de Corse, le Rallye du Var, des trucs comme ça, je sais pas encore.
Bon, et puis si t'as un peu de temps, tu peux monter nous voir, hein. On n'est pas très loin,
oui. Un petit coup de 8. Pas de problème, vous venez à la radio, d'accord, voilà.
Tu montres la voiture plaisir. Devant la radio, hein, tu
oui, en plus. En plus.
Avec plaisir.
Voilà. Eh ben merci beaucoup Michel pour cet accent chantant et bravo pour votre victoire et toutes ces anecdotes. Hein.
Merci beaucoup, avec plaisir. Au revoir, voilà. Stéphane, au revoir tout le monde.
À très bientôt. Chapeau, hein.
Ouais, non, ouais, c'est une belle aventure. Rien à dire, c'est voilà, ouais. il a mené, il a bien résumé, et puis c'est un garçon, c'est impur, c'est voilà, le rallye d'autrefois, et bon, il a un petit passé de rallyman, un gros passé même de rallyman, voilà, on sait que. ça se ressent.
C'est ça, oui, alors, on va rappeler quand même pour ceux qui ne sont peut-être pas au fait des choses du sport automobile, ce qu'est le Monte Carlo historique. Ah,
le Monte Carlo historique, bah, on en parlait un petit peu, oui. Donc il y a des villes de départ, après tous les concurrents se retrouvent et on met des balises en fait GPS, car en fait on est suivi en permanence dans des zones de régularité par l'Automobile Club de Monaco qui organise, et en fait le jeu c'est de respecter la moyenne en permanence, d'être le plus près possible de la moyenne définie lorsque on passe la ligne de départ. Cette année il y avait 15 ZR je crois, ou dans ces eaux-là, et donc c'est celui qui a été le plus régulier sur ces zones de régularité qui l'emporte. Maintenant après, pour aller d'une ZR à une autre, il y a un parcours routier où là on respecte le code de la route. Bon, c'est, il y a rien de particulier, sauf qu'on peut malheureusement être pris par des radars, par la police. Donc là, il faut vraiment jouer le jeu, et c'est ce qui s'est passé cette année. Notamment Michel a eu des pénalités parce que le routier, dans les conditions climatiques telles qu'elles étaient cette année, était assez difficile. Et il est allé voir l'Automobile Club de Monaco pour leur dire voilà, vu les conditions de route, soit je mettais votre épreuve en péril en doublant, en ne respectant pas le code de la route. Ils étaient plusieurs d'ailleurs à avoir pris beaucoup de pénalités dans les premiers. Soit je joue le jeu, je respecte les conditions de route et je prends des pénalités. Donc l'Automobile Club de Monaco a supprimé en fait toutes les pénalités de tous ceux qui avaient bien respecté le code de la route, parce qu'en fait c'est pas, on est les rallyes de régularité, c'est pas des sauvages, hein, il faut partager la route avec les autres usagers, et donc voilà. Donc au bout du compte, c'est être le plus régulier sur ces épreuves de régularité qui sont quand même ouvertes aux autres, donc il faut quand même faire attention, mais c'est vrai que ces petites routes de montagne, que ce soit dans les conditions climatiques difficiles ou la nuit du Turini, la dernière nuit, on monte tout là-haut, donc ça se termine pour les derniers à 2-3 heures du matin. Bon, il y a peu de chances de rencontrer des voitures en sens inverse, mais il faut quand même faire attention. Voilà, même sur ces zones de régularité, on respecte le code de la route, et la moyenne définie n'est jamais supérieure à 50 km/h. Voilà, pour justement bien respecter le cadre normal.
Alors ça précède le célèbre rallye de Monte Carlo, le Versé, qui ouvre traditionnellement la saison. Cette année, une victoire française avec Sébastien Ogier, l'homme qui revenait après quelques jours après les dunes
du Dakar,
du Pérou.
Justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que l'homme a fini sa carrière chez PSA sur les dunes du Pérou en finissant troisième, avec la victoire d'Alayatia qui l'emporte sur Toyota.
Oui, Stéphane, le Dakar, bon, vous l'avez trouvé comment, vu de l'extérieur? On a le sentiment qu'on en parle un peu moins qu'avant.
Oui, beaucoup moins.
Et pourtant, les audiences télé, elles sont supérieures cette année à celles de l'an passé. Hein.
Oui, mais le fait que ce soit sur un pays, sa 41e édition, l'Amérique du Sud, tout ça, ça joue. Et malheureusement, je pense que ça perd un petit peu quand même de son intérêt. Il y a moins d'usines engagées. Il y a
une semaine et demie en plus.
Beaucoup moins longtemps.
De compétition. Ça n'a pas empêché que l'épreuve, elle était dure. Hein. Elle était beaucoup plus dure.
L'épreuve était difficile.
Oui.
Mais.
Non, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Vas-y,
donc. Un petit problème technique.
Vas-y, continue.
C'est mieux.
Ouais, ouais. Bon, voilà, c'est bon. Bon. Ouais. Donc il y avait une semaine et demie de compétition, mais par contre l'épreuve était quand même très difficile cette année. On a vu beaucoup de casses. Hein.
Tout à fait. Et puis Loeb et Elena ont eu des problèmes de navigation. Hein, et il y a eu un problème de roadbook et malheureusement ça leur a coûté pas mal de temps. Après ils étaient peut-être un petit peu démotivés. Quand ils sont repartis, ils ont de nouveau eu des difficultés. Donc voilà, on voit que. En voiture, ça a été assez limpide parce que finalement, donc Toyota, comme je disais, l'emporte pour la première fois.
Oui.
Et ce qui n'était jamais arrivé. Par contre, en moto, il y a une belle bataille et jusqu'au dernier jour.
Comme très souvent. Hein.
Ouais, mais souvent. En moto, c'est les vrais chevaliers du désert. Et là, par contre, ça fait toujours de magnifiques images. Mmh. Et quand on est motard, on voit ce que ça représente. Ce sont des conditions quand même assez dantesques. Là, on se rapproche plus des conditions du Monte Carlo, avec des conditions de glisse, de lutte. Et là, jusqu'au dernier jour, on savait pas qui allait gagner. Bon, malheureusement, le Chilien là tombe à 10 km du départ dans la dernière spéciale, et puis c'est Toby Price qui gagne sur KTM.
C'est un remake de Auriol.
Exactement, voilà, les grandes années 80.
Qui avait fini les ventes cassées, du temps.
Auriol, Raillé,
si j'ai bonne
mémoire. Ouais, non, c'est tout à fait.
Donc, il y avait ce Dakar, et puis l'homme, il a enchaîné directement avec le Monte Carlo. Donc, chapeau quand même, termine quatrième. Chapeau quand même. Même si c'est Ogier qui gagne.
Exactement. Alors, Ogier, revenons sur sa victoire quand même. C'est la 100e victoire de Citroën en WRC. Citroën fête ses 100 ans. Encore une fois, il faut noter, il y a quand même des choses qui ressortent comme ça, donc c'est pas anodin, hein, 100 victoires pour une marque, c'est le record, hein, ils sont devant. Et alors c'est un rallye magnifique, hein, il y a eu pareil toutes les conditions climatiques possibles, pas mal de neige, de glace au milieu, du sec sur la fin. Bon, ceux qui ont eu la chance de regarder les images, en fait la dernière journée était assez sèche, mais le passage du Turini s'est fait assez facilement. Mais par contre un final Ogier l'emporte pour 2 secondes 2, ce qui représente le record dans ce rallye. Et quand on voit les conditions de route, les kilomètres parcourus et finir avec juste 2 secondes 2 d'avance sur le deuxième qui est Thierry Neuville. Voilà, pareil, là c'est un suspense incroyable que seul le rallye peut nous donner à l'heure actuelle. Quand on compare avec la Formule 1, on en parlera, ou même l'endurance avec les 24 heures du Mans, où là c'est vraiment plus, ce sont des épreuves de mécanique, c'est-à-dire la voiture l'emporte un peu. En rallye, c'est vraiment le pilote qui fait la différence. À tel point qu'on voit qu'Ogier, qui revient sur Citroën, l'emporte, alors que Citroën avait gagné une seule victoire l'année dernière et difficilement. Voilà, là, il y a rien à dire, c'est le pilote a pris le dessus sur la machine.
Alors, ça promet une belle saison. Est-ce que Loeb va continuer, lui? Est-ce qu'il va revenir sur d'autres
épreuves? Est parti. Alors déjà, bon, la semaine prochaine, il y a le rallye de Suède, donc on met ça. Hein, c'est une épreuve, je serais bien allé la voir.
Ça serait bien, ouais.
Voilà, et puis je vous ferai un petit direct, mais bon, on verra ça une prochaine fois, une prochaine année. Ouais. Donc là, il repart la semaine prochaine. Il est parti normalement pour 6 rallyes chez Hyundai pour cette année. Après... Voilà, il faut voir, hein, s'il joue le titre, a priori, au niveau de la voiture, il a déjà apporté des changements, peut-être qu'il en fera d'autres, on sait pas. Sport auto, on peut jamais dire qu'on va faire ça ou ça, je pense que, après on se laisse vite prendre au jeu, il a retrouvé des bonnes sensations dans la voiture, il a dit que vraiment le rallye, c'était ce qu'il aimait, c'était son truc, donc bon, je pense que peut-être qu'on sera amené à le voir plus que 6 fois dans l'année.
Ça sera plus passionnant que la saison de Formule 1 qui se profile, qui va commencer le 17 mars, même si Hamilton va tenter la passe de 6.
Oui, Hamilton, est-ce qu'il va y arriver? Alors, c'est vrai que là, on va avoir pareil. Bah, dans
21 Grands Prix cette année. Hein.
Oui, 21 Grands Prix.
Ça se termine début décembre.
Et 70e édition du championnat du monde de Formule 1. Donc, Grand Prix, tu l'as dit, là, à Melbourne, dans un mois à peu près.
17 mars.
On ne doit pas être loin. Les essais de pré-saison, pareil, c'est dans une semaine ou 10 jours. Donc là, on va en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce que Leclerc qui arrive chez Ferrari, un monégasque sur Ferrari, est-ce que ça va pimenter un petit peu la saison et pousser Ferrari à aller un peu plus en avant? Parce que c'est vrai que l'année dernière, on a vu que la Ferrari était beaucoup plus performante que la Mercedes en début de saison. Donc, on peut croire que ça va aussi repartir un petit peu comme ça. Voilà. Si Vettel et Leclerc ne font pas d'erreur, pourquoi pas une belle saison. Alors maintenant, Hamilton, c'est quand même un chef, et il a prouvé l'année dernière que lui aussi, c'était un très bon pilote.
Et un Grand Prix de France qui est encore maintenu, hein, c'est le 23 juin.
Oui, tout à fait, 23 juin.
Voilà. Parce qu'au départ, on disait que ce serait un an sur deux, puis finalement...
Deuxième année de suite. Alors, est-ce qu'ils vont avoir réglé un peu les problèmes d'organisation? On pense que oui, parce que c'est toujours comme ça. La première année un peu difficile, c'est pour voir, et à partir de la deuxième édition, ça va toujours mieux. On est reparti pour avoir un Grand Prix de France pérenne.
Très bien, allez, la deuxième page de pub et la pause musicale, on y va.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02. RVE. Écoutez, 103.7. RVE.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai tout joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Et le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais.
Et le sport dans votre région avec RVE.
Oui, puis vous n'oubliez pas que ce matin, il y a aussi le semi-marathon de Bullion. Hein. Le départ a été donc effectué à 9h45. On vous donnera naturellement le résultat de cette épreuve dont on avait parlé il y a 15 jours, la semaine prochaine. Et puis, bah, vous pourrez réécouter notre émission en podcast très rapidement dans le courant de la journée, comme toutes celles de ce début 2019 et puis une bonne partie de celle de 2018. Stéphane, riche actu ce week-end pour les sports mécaniques, entre le salon rétromobile et puis la dernière manche du trophée Andros au Stade de France. Les amoureux du sport auto Bretons ont été gâtés.
Et oui, tout le monde sur la capitale, hein, c'est là où ça se passait ce week-end, et Rétromobile, très beau salon. Oui. Donc il y en a pour tous les goûts, des voitures de sport, des voitures de collection, les clubs ont présenté aussi de belles voitures. Il y a des quelques sorties de grange, donc on peut voir quelques bases de restauration et des voitures refaites par des spécialistes ou qui atteignent plusieurs millions. Il y a la vente aux enchères ou pareil, là, notamment une des Bugatti à un palmarès incroyable a été vendue. Bon, c'est Rétromobile pour tous les amoureux de voitures, de motos également. Ça devient incontournable. Alors, c'est plus tout à fait l'ambiance des Rétromobiles du départ d'il y a une trentaine d'années où il y avait, c'était plus une bourse d'échange, une brocante avec quelques clubs. C'est devenu une grosse machine, mais c'est un peu comme l'intérêt actuel pour les véhicules anciens, pour les véhicules de collection, où on se fait plaisir avec ce genre de voiture, ce qui n'est plus forcément le cas avec les voitures modernes et la législation qui fait qu'on peut plus rouler, on peut plus se faire plaisir. Et à bord d'une ancienne, ça vibre, il y a des sensations, fouet de fin sur les commandes, sur le freinage, voilà, ça se vit pas de la même la route ne se vit pas de la même façon à bord d'une ancienne et à bord d'une moderne.
En tout cas, on vient pour rêver, hein. Ça c'est sûr.
Ah, on peut rêver. Rêver, hein. On peut rêver. Il faut avoir un bon carnet de chèques, mais on peut rêver. On n'est pas obligé de dépenser, hein.
Ah bah oui. Allez, maintenant c'est les rendez-vous de la reine. Faut pas l'oublier aussi. Ça donne envie d'y aller quand on a fait le salon Rétromobile. Bah
justement, donc on passe par Rétromobile. On commence à acheter une vieille ou une ancienne, hein, on va plutôt dire ça comme ça. Et après, on vient tous les troisièmes dimanches du mois sur le parking Leclerc de Rambouillet. Au rendez-vous de la reine, et la semaine prochaine, 124e édition. Donc l'année dernière, on a fêté les 10 ans de l'association à l'hippodrome de Rambouillet. C'était une journée assez fantastique avec un très très beau plateau, beaucoup de magnifiques voitures. Et donc voilà, ça perdure. Et là, dans les mois à venir, donc déjà dimanche prochain, en concurrence avec l'Aikido.
Ouais. Mais vous vous arrêtez au stade.
Mais c'est ce qu'on a dit
tout
à l'heure.
Voilà, ça sympa.
Mais on peut faire les deux, effectivement, oui. Sans problème. Et après, nous, l'actualité, c'est il y a la journée des véhicules anciens, donc fin avril, le 28 avril. Bon, ce sera pas pendant les rendez-vous de la reine, mais il faut quand même le noter. Et surtout, le 19 mai, il y a la bourse d'échange, toujours pareil, hein, sur le parking du Leclerc, où tout le monde est le bienvenu, avec concours d'élégance, concerts, le programme est bien bien chargé, et tout au long de l'année, tous les troisièmes dimanches, on se retrouve de 9h à 10h30 sur le parking, et après les véhicules de plus de 30 ans partent en balade. Et pour les membres, il y a toujours un petit repas qui est prévu après. Où
on peut peut venir vous rejoindre dans cette association. Bien sûr. Il suffit d'avoir un véhicule ancien.
Pas obligatoirement, parce qu'on peut venir, parce qu'on est nombreux à partager notre passion. Donc on peut aussi venir, essayer de trouver une place à bord d'un véhicule pour faire la balade.
Ah oui.
Venir ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Les beaux jours le plateau parfois est conséquent. Il faut voir quand même que sur le parking du Leclerc, on arrive à avoir plus de 100 voitures et pas mal de motos dès qu'il fait beau aussi.
Bruno, vous y venez des fois en moto, quand l'Aikido vous laisse le temps libre.
Je viens en moto, moi.
Mmh. C'est bien, et on encourage en fait tous les passionnés de la région, adhérents ou pas du club, à partir du moment où le véhicule rentre dans les clous, à venir au moins pour le rassemblement statique, et la balade est ouverte à tous les véhicules de plus de 30 ans. Donc n'ayez crainte, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera et qu'on partagera notre passion.
À partir de quelle heure les rendez-vous, le troisième dimanche du
9h.
Mois, donc au parking Leclerc, 9h. Vous savez ce que vous faites, Stéphane, un dimanche, vous vous arrêtez à la radio pendant
Ah bah super,
sport,
hein, ah bah très bonne idée. J'ai peur que le parking soit un peu petit, là on va refaire le bouchon de la Nationale 7, on va faire le bouchon de l'église, mais pourquoi pas.
Ça serait une belle idée. Hein.
Ouais, avec plaisir. Je vais en parler à Pierre, notre cher président.
Bah oui, il nous connaît bien.
Bah oui, je pense que vu les liens qui vous unissent, il n'y aura pas de souci pour venir faire un petit crochet.
Eh ben merci Stéphane, vous revenez bientôt.
Oui, c'était un plaisir. Bon, après la saison débute, il y a pas mal de choses. Nous, pour préparer le Monte Carlo historique l'année prochaine, on va faire quelques rallyes de régularité avec Benoît. On est reparti pour vivre une belle aventure. Après, quelques piges peut-être. J'ai un ami qui fait des rallyes modernes. s'il a besoin d'un copilote comme l'année dernière, bah je pense que je serai partant pour l'aider. Donc voilà, une saison bien chargée. Les photos au milieu de tout ça, toujours photographe des routes du Vexin, photographe de différents événements, les 24 heures du Mans. Et tiens, j'ai oublié de dire aussi pour notre fameuse bourse d'échange, l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, sera présent, viendra présenter un peu le club et parler des 24 heures du Mans. Donc voilà, une raison de plus pour venir nous voir et pour venir partager cette journée qui sera superbe, comme tous nos rendez-vous.
Absolument, merci Stéphane. Merci. À très bientôt. Donc, merci. On n'oublie pas aussi le rendez-vous concernant l'aïkido, donc dimanche prochain, on va le rappeler.
Oui, tout à fait. Voilà. 9h30, 12h30 au stade du Vieux Moulin avec Pascal Guillemin.
Merci messieurs, merci en tout beaucoup. Cas d'être venus parler sport merci. Mécanique et puis aïkido, on l'a dit, hein, tribune sport, émission de tous les sports. Voilà, on va remercier naturellement Bastien d'avoir été une nouvelle fois aux manettes ce matin et puis remercier aussi l'accent chantant de Michel.
De Michel, comme toujours.
Hein. En tout cas, ça a été bien sympa. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. La semaine prochaine, on recevra la session cyclisme de Poigny-Rambouillet. Et dans 15 jours, tiens, c'est le bowling. Vous voyez, comme quoi, on parle vraiment de tous les sports. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. Et on sera aussi derrière le 15 de France cet après-midi contre nos amis anglais. Allez, bon dimanche.
Ok, merci.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu. RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Une femme et un enfant sont morts hier soir à Lyon dans l'incendie d'un immeuble de 2 étages. Le feu aurait été causé par une explosion survenue dans une boulangerie. 4 personnes ont également été blessées dans cet incendie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de cet événement. Les Gilets jaunes continuent de mobiliser pour l'acte 13 qui s'est déroulé hier. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 51 000 personnes ont manifesté en France contre 58 600 la semaine dernière. Un comptage effectué par les Gilets jaunes fait part de 111 000 manifestants. Cette mobilisation en recul a une nouvelle fois été marquée par des incidents, notamment à Paris où un manifestant